France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, Mireille, compositrice et interprète, première partie. Un charmant spectacle présenté actuellement au Petit Théâtre Montparnasse par Hervé de Volder et Marie-Charlotte Leclerc, la grande petite Mireille, m'a donné envie de rendre hommage à ce personnage majeur de la chanson française du XXe siècle, pour ses talents de compositrice, d'interprète et aussi pour son rôle de pédagogue grâce à son petit conservatoire de la chanson qui a duré des décennies et a vu éclore plusieurs générations de chanteurs. Mireille était respectée par les plus grands, tels Brel, Brassens et Michel Berger, qui n'ont jamais manqué l'occasion de le faire savoir. Mireille, c'était le goût du travail bien fait, l'aspiration toujours en éveil, des mélodies rythmées que l'on retient immédiatement, une petite voix pointue, sautillante, qui ne manque ni d'esprit ni de singularité. Mireille confessait volontiers ne pas être douée pour réfléchir, mais plutôt pour lire dans les nuages, et que son existence était menée par des lutins, comme elle la chantait de façon si charmante.
Sur ma cheminée, j'ai vu ce matin trois petits lutins qui se promenaient les doigts dans le nez. Le premier m'a dit, c'est moi qui détraque toutes vos pendules pendant les 30 jours du mois. C'est moi qui les démantibule, c'est moi qui les fais avancer. Toutes les fois que vous êtes pressé, à cause de moi, certains jours vous vous dites, c'est fou comme le temps passe vite. Suivant mon goût et mon humeur, vous êtes en retard ou vous êtes à l'heure. Je couche dans l'horloge du vestibule, c'est moi qui suis le lutin des pendules.
Mireille est née à Paris en septembre 1906 et a vécu une enfance heureuse au sein d'une famille juive émigrée à Paris. Son père, Hendel Hartusch, venu de Pologne à 29 ans, était pelletier à domicile. Sa mère, Mathilda Rubinstein, d'origine britannique et douée d'une jolie voix, faisait partie d'une famille d'artistes et de musiciens. La formation musicale de Mireille Hartusch démarre de très bonne heure, comme elle le racontera en 1954 à Jean Hersant dans l'émission « Rencontre avec ».
Ma mère avait une très très jolie voix, une voix extraordinaire, comme une cloche. Elle m'a expliqué que quand j'étais bébé, elle n'avait qu'à chanter pour me faire taire quand je pleurais. Alors on a dû s'apercevoir peut-être qu'il y avait quelque chose de musical, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai joué du piano quand j'avais 3 ans et demi, et puis j'ai eu une chance formidable, extraordinaire. Ma mère faisait une cure à Roya, et il y avait là Francis Planté, qui était le grand maître. Et il a bien voulu s'intéresser à moi. Et il m'a fait comprendre la musique. Il m'a fait écouter. Et j'ai encore dans l'oreille une étude de Chopin qui m'avait joué pour m'expliquer. Il m'expliquait la révolution. C'est la révolutionnaire. Si vous voulez bien, on va l'écouter jouer par Sifra.
Mireille prend aussi des cours de comédie et apparaît dès l'âge de 6 ans comme figurante dans un film anglais. Durant la Grande Guerre, réfugiée avec sa mère et sa sœur aînée en Auvergne, elle va dans les hôpitaux militaires pour distraire les soldats américains blessés. Elle entre au conservatoire pour perfectionner son piano, mais sa petite main ne lui permet pas de couvrir l'octave. Malgré les exercices d'étirement proposés par Marguerite Long, rien n'y fait. Renonçant vers l'âge de 15 ans à une carrière de concertiste, Mireille décide de se consacrer à la comédie. Elle passe l'examen annuel du théâtre de l'Odéon et, contre toute attente, reçoit de son directeur Firmin Gémier un contrat de 5 ans. Son père, d'abord hostile à cette idée, lui accorde finalement un an d'essai. De par son jeune âge et sa frêle silhouette, Mireille ne peut jouer que des rôles de garçon en travesti. Chérubin dans Le mariage de Figaro ou Puck dans Le songe d'une nuit d'été. Elle devra attendre plusieurs années avant de pouvoir jouer les jeunes filles de Molière ou de Marivaux. Elle revient tout de même un peu à la musique, car Firmin Gémier lui demande de chanter des chansons anciennes ou du folklore au cours des matinées poétiques du théâtre de l'Odéon. Il nous en reste une trace grâce au disque 78 tours plutôt rare que Mireille a gravé en mars 1929 chez Columbia. Firmin Gémier était un directeur assez autoritaire, mais il savait se lancer dans des aventures audacieuses, dont Mireille se souviendra en 1985, dans l'émission de France Culture, Mémoire du siècle.
Alors il a eu une idée tout à fait extravagante. Il a décidé de monter une revue, ce qui, dans un théâtre national, c'était jamais vu. Et pendant un changement de décor, il avait demandé à la troupe si quelqu'un jouait du piano. Il y avait un sketch avec une fille qui jouait du piano dans un hôtel, qui cassait la tête et les pieds, si j'ose dire, à tous les habitants de l'hôtel, les locataires, je sais pas. Et j'avais levé la main en disant, c'est pas trop difficile, je peux peut-être le faire. Ah bon? Alors il faudra jouer combien de temps? Ben, il faudra jouer 3 minutes 30, je crois qu'il fallait mettre une roulette sur la scène, enfin il fallait 3 minutes 30 de musique. Alors je lui demande ce que je devais jouer. Et puis il me dit, comment est-ce que tu dois jouer? Tu dois jouer, improviser pendant 3 minutes 30, et puis voilà. Et puis il est parti. Là, il me dit, improviser, il est fou. Improviser, ça veut dire composer. Composer, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pas possible, je me précipite dans le foyer. Il y avait toujours un piano au foyer de l'Odéon. Je m'installe au piano, et puis j'étais absolument obsédée, folle. Et je laissais, j'ai toujours fait ça d'ailleurs, laisser courir les doigts sur le clavier, et puis voir ce qui se passerait. Et puis c'est passé un petit quelque chose. Et je me suis dit, j'ai une maladie. Ça y est, j'ai attrapé quelque chose. Il s'est passé un air, un bout d'air. J'étais tellement épouvantée que mon camarade, qui était décorateur à l'Odéon, qui s'appelait Claude Dauphin, je vais le chercher, je lui dis, épouvantée, j'ai entendu ce matin une chanson américaine. Je voudrais que tu me dises si tu la trouves aussi bien que j'ai trouvé moi. Et je lui joue ce que je venais de composer. Et il me dit, oh, c'est ravissant, c'est très gentil. Alors là, bon, il a commencé à redresser la tête, c'est ravissant. Sans fausse modestie, je lui dis, eh ben c'est de moi. Oh, c'est de toi, mais il faut que tu rencontres mon frère, Jean-Noin, Jaboune. Lui fait des poèmes pour enfants. Et ça serait intéressant que vous vous rencontriez.
Le courant passe instantanément entre Mireille et Noin. Leur première chanson, Tout Petit, est quasiment un autoportrait de Mireille, figurant au dos du fameux disque de mars 1929, où elle est accompagnée au piano par Georges Vamparis.
Il y a des jeunes filles de 2 mètres de haut. Ce n'est pas du tout ce qu'ils vous font. Oh, oh, oh. Les championnes trop musclées et les fiers Amazons. Une femme, c'est bien plus gentil quand dans vos bras, elle se blotte ici, 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 comme un petit oiseau tombé du nid, et que l'on tient au creux de sa main. Tout petit, tout petit, tout petit, on la regarde, et l'on se dit, pauvre petit, son cœur palpite. On la regarde, et l'on hésite, tout petit, c'est bien plus gentil.
Avec Jean Nohain, Mireille s'attelle ensuite à la confection d'une opérette américaine intitulée Fouchtra, car l'action se déroule en Auvergne. Ils écrivent 3 à 4 chansons par semaine et aboutissent à une œuvre de 5 heures dont le manuscrit, affirme Mireille dans ses mémoires, pèse 10 kilos. Ils tentent de la vendre à différents théâtres d'opérette, mais aucun directeur n'arrive à l'écouter jusqu'au bout et n'envisage de monter un tel ouvrage. Mireille finit par se décourager. Seul un jeune homme ambitieux, Raoul Breton, ancien danseur mondain rencontré à l'Odéon, qui vient d'ouvrir sa maison d'édition musicale, est séduit par leur style et accepte de prendre l'œuvre en dépôt. Après avoir quitté l'Odéon, Mireille se tourne vers l'opérette. Au Théâtre Michel, elle joue en janvier 1929 dans « Le renard et les poules » de Tiarco Richepin, qui sera vite retiré de l'affiche. Puis elle est engagée par Albert Villemetz pour jouer au Bouffe Parisien dans l'opérette « Flossie » de Joseph Schulz à partir de mai 29. Villemetz l'évoquera à sa compagnie en 1951, lui demandant de se remémorer l'air qu'elle chantait sur scène, mais n'a jamais enregistré sur disque.
Dans Flossie, outre Koval, il y avait plusieurs débutants auxquels, dès leur apparition sur une scène, j'avais prédit une heureuse carrière.
Merci, monsieur Villemetz, de me pardonner de n'être pas demeurée une chanteuse d'opérette.
Je vous le pardonne d'autant plus volontiers, ma chère Mireille, que vous êtes devenue l'un de nos compositeurs les plus talentueux.
Ainsi, mademoiselle Mireille, vous avez débuté dans Flossie. Mais alors, il n'était pas encore question de coucher dans le foin des 3 gendarmes, du petit chemin qui sent la noisette, ou de bon voyage, messieurs du vélo.
Non. Non, je faisais en ce temps-là des chansons seulement pour moi. Et pendant que je faisais ces chansons pour moi, ça ne m'empêchait pas tous les soirs de chanter à Jean Gabin, justement dans Flossie. Ça commençait comme ça. Flossie m'avait dit quand il danse, c'est un second Douglas Fairbanks, enveloppant ce chenapan. Vous enlevez pan, 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 pan. J'aurais aimé que vous soyez comme ça, que vous ayez toutes ces audaces-là, que vous m'enleviez tout comme au cinéma. On vous enlève, c'était mon rêve. J'aurais aimé que vous soyez comme ça, que vous ayez toutes ces audaces-là. Mais hélas, vous n'êtes pour moi qu'une mazette. Oh, c'est affreux de vous tromper comme ça. Voilà, c'était quelque chose dans ce genre-là.
Dans cette opérette Flossie, Mireille a donc pour partenaire le séduisant Jean Gabin, tout juste âgé de 25 ans, dans un duo qui finira par un véritable baiser. Durant la fermeture estivale des Bouffes Parisiens, Mireille, qui a besoin d'argent et parle couramment l'anglais, part tenter sa chance à Londres, où elle se produit dans un cabaret plutôt snob, le Café de Paris, où l'on apprécie les artistes français. Remarquée par le fameux Noël Coward, sorte de Sacha Guitry britannique, elle remporte une audition pour jouer à Broadway dans la création américaine de l'opérette Bittersweet au Ziegfeld Theater. Après une certaine hésitation, elle part en bateau du Havre jusqu'à New York, où le spectacle, débuté le 5 novembre 1929, tiendra l'affiche durant 1 an, suivi d'une tournée. Voici un extrait des airs principaux enregistrés à l'époque pour Columbia. Tout en jouant Bittersweet à New York, Mireille apprend beaucoup. Elle a même la chance de pouvoir réaliser son rêve en rencontrant George Gershwin, dont la musique la marque énormément. Mireille part ensuite pour Hollywood, où elle frappe à la porte de tous les grands studios et compose de la musique au maître pour des séquences de films sans être créditée. En 1931, elle tourne dans quelques longs métrages, apparaissant ainsi avec Douglas Fairbanks Jr., avec Buster Keaton, ainsi que dans un film de la MGM destiné à la France, Le procès de Mary Duggan. Mais durant son absence, un duo s'est formé dans la revue Paris qui brille, menée par Miss Tinguette au Casino de Paris à l'automne 1931, réunissant Jacques Pils et Georges Tabet. Au tout début de l'année 32, les duettistes sont engagés pour se produire au célèbre cabaret Le Bœuf sur le Toit, mais ils doivent se constituer un répertoire de création. Tabet compose quelques chansons et fait la tournée des éditeurs de musique. Chez Raoul Breton, il déniche le manuscrit de la fameuse opérette Fouchtra et tombe sous le charme d'un duo extrait du début du deuxième acte, baptisé « Couché dans le foin ». Pils et Tabet sont à nouveau engagés au Casino de Paris à partir du mois de mai pour donner un tour de chant au cours de la revue Sex Appeal Paris 32, dont la vedette est Marie Dubas. Leur chanson obtient ainsi un bien plus large écho qui va se multiplier, car le disque qu'ils ont enregistré chez Columbia au début du mois d'avril sort au même moment et se vend comme des petits pains.
C'est à New York que j'ai reçu un télégramme de mon père. Connais-tu Pils et Tabet? Qu'est-ce que c'est que se coucher dans le foin que la France entière chante? Rentre, papa. Alors, sur le bateau, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que Pils et Tabet? Qu'est-ce que c'est que coucher dans le foin? Bon, je savais, mais comment, 2 ans après, qui a trouvé ça? Et c'était, voilà, c'était resté chez un éditeur, dans le fouillis, et Tabet avait trouvé la musique, il a dit, c'est ça que je chanterai.
Coucher dans le foin. Pas que je vous cache que j'eus toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pende ou qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis. Mais c'est dommage.
La fille de la fermière est charmante et on a le même âge.
Par bonheur pour les amoureux,
il est au grand air d'autres jeux.
Des jeux que j'aime davantage. Que j'aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Seul pour témoin. Rentrée
à Paris d'urgence, Mireille trouve dès le mois de juin 32 un engagement au théâtre du Palais Royal dans une pièce de Paul Nivois. Mais sa carrière de comédienne reste accessoire car le triomphe de Couché dans le foin va la propulser comme compositrice et aussi comme interprète. Elle reprend sa collaboration avec Jean Nohain et donne le jour à de nouvelles chansons confiées à l'éditeur Raoul Breton qui leur a porté chance. Outre les duettistes Pils et Tabet, ce dernier pense aussitôt à Jean Sablon qui était également à l'affiche du Casino de Paris avec Miss Tinguette et a déjà enregistré plusieurs faces chez Columbia.
L'éditeur Raoul Breton me téléphona un matin pour me dire « Jean, la petite Mireille revient des États-Unis et a des chansons intéressantes qui te plairont. Veux-tu les entendre ?» Et c'est dans mon appartement du boulevard Malesherbes que Raoul Breton m'amena un tout petit bout de femme, blonde et rose, qui chantait d'une voix acidulée et avec des mines malicieuses pendant que ses mains agiles couraient sur le clavier du piano. Les chansons de Mireille et Jean-Noël apportaient quelque chose de tellement nouveau. Une bouffée d'air frais, un rayon de soleil, une note de poésie tendre et cocasse.
Mireille enregistre dès le mois de juin 32 de nouveaux disques chez Columbia. Ainsi son premier duo avec Jean Sablon, Quand on est au volant, et la chanson en apparence enfantine, Papa n'a pas voulu, qui n'est pas sans lui rappeler le refus au départ de son père de l'avoir embrassé une carrière de comédienne. Créée lors d'un gala au Cirque d'hiver à Paris en avril 32 par le célèbre comique Dranem, qui ne l'a pas enregistré, cette chanson deviendra un standard de Mireille, qui, elle, l'aggrave bien au mois de juin.
Je me suis dit, ça ne va plus ainsi, il faut que ça finisse, j'épouse institutrice, et quand on sera marié, je serai toujours le premier. Papa n'a pas voulu, et maman non plus, mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents, papa n'a pas voulu, et maman non plus. j'adorais les animaux, les chiens, les chats, les chameaux, les poissons rouges, les taureaux, les poules et les veaux. Un jour dans une loterie, je gagne une loterie, je l'amène à la maison et je l'installe dans le salon. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu et maman non plus. J'aimais beaucoup le violon, le trombone et le piston, la flûte et l'accordéon, le piano et le basson. Un jour le marchand passe, j'achète un corps de chasse. Dès la première leçon, toute la famille a dit non. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Ma sœur m'avait fait cadeau d'une jolie paire de ciseaux. Je coupais les franges des rideaux en tout petits morceaux. Je taillais les tentures, les draps, les couvertures. Et je voulais même couper l'eau, le gaz, l'électricité. Papa n'a pas voulu et maman non plus. Mon idée leur a déplu, tant pis, n'en parlons plus. Les enfants obéissants font tout ce que disent leurs parents. Papa n'a pas voulu et maman non plus.
Au même moment, Mireille livre également à la cire une version restée inédite du récent succès de Marie Dubas, Le Doux Caboulot, petit chef-d'œuvre signé Francis Carco et mis en musique par Jacques Larmanja. Exceptionnellement, cette chanson très poétique n'est donc pas de Mireille. En revanche, les duos qu'elle enregistre en juillet 32 avec Jean Sablon sont bien ses compositions. 20 et 20 et Ma grand-mère était garde-barrière, qui sera reprise à l'automne sur la scène des Folies Bergères par Florel. Au mois de novembre, Jean Sablon, dont Mireille adore la voix chaude, se voit confier le soin de créer le blues « Plus rien qu'un chien » au studio de Paris, dans la revue de Francis Carco « Ces messieurs dames », où il incarne le personnage de Jésus Lacaille. Ce morceau est également chanté par Mireille et Pierre Brasseur, doublé par Jean Sablon, dans le moyen-métrage « Une fin de loup » qui sort au même moment. Sablon l'enregistre une première fois en novembre 32, mais c'est la version gravée en mars 33 avec un magnifique accompagnement de Clément Doucet qui sera finalement publié.
Sur le boulevard de la Villette, deux femmes travaillaient pour moi. Elles sont malades pour 3 mois. Une vieille dame à galette avait pour moi le grand béguin. Elle est morte ce matin. Et dans un cirque à la roulette, j'ai tout perdu, tout, tout, tout. Mais alors tout, tout, tout d'un seul coup. Plus rien, je n'ai plus rien qu'un chien. Plus rien qu'un chien qui m'aime bien. Il comprend tout, il me suit partout. Il aboie, dès qu'il me voit, il saute sur moi pour montrer sa joie. Brave chien, il ne me demande jamais rien. Un os, il est à la noce. On est heureux, sans rien, tous les deux. Plus rien, je n'ai plus rien que mon chien. Que mon chien.
Mireille a beaucoup de chansons en réserve parmi celles écrites avec Jean Nohain. Entre novembre 32 et mars 33, Columbia procède à l'enregistrement d'une série de disques sous le titre générique de Un mois de vacances, avec des airs tirés de la fameuse opérette Fouchtra et quelques autres composés au fur et à mesure. Cela donne une sorte d'opérette dont l'intrigue réunit une jeune fille et 3 jeunes gens qui héritent d'un vieux château où travaille un jardinier qui boite. Ils font une partie de bridge, vont au petit bureau de poste et croisent 3 gendarmes entreprenants. La fille entame un flirt avec l'un de ses compagnons, tous deux vont cueillir des fleurs et des champignons, se mettent les pieds dans l'eau et finissent par se dire presque oui. La trame est simple, les airs charmants, les paroles drôles, pétillantes et parfois coquines. C'est le cocktail idéal pour plaire aux auditeurs. Plusieurs chansons de cette série, comme « C'est un jardinier qui boite » et « La partie de bridge » nécessitent 4 voix. Se pose alors le problème du choix des interprètes, comme Mireille l'évoquera sur Radio Bleu en 1982 au micro de Francis Colneau.
Et quand on a décidé après de faire une opérette disquée, avec le mois de vacances, c'était l'histoire de 3 garçons qui héritaient d'un vieux château. Mais alors, il fallait une fille pour les accompagner. Alors moi, j'ai cherché une fille, je faisais la musique pour une fille, on cherchait une fille, une troisième voix. Et puis, 3 jours avant l'enregistrement, le directeur de la maison de disque a dit « Écoutez, on ne retrouve pas de fille, tant pis, chantez vous-même. »
Venez, venez, soyez aimables, venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux, le bridge est adorable. Comment vous n'êtes pas très forte, ça ne fait rien du tout, qu'importe. Si vous gaffez, nous fermerons les yeux.
Asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper.
C'est moi qui donne.
Allez, coupez.
Coupez.
Pic. 2 carreaux.
3 sans atout.
Bon. Dame.
3.
Allez. Honneur sur honneur.
Non, mais qu'est-ce que tu fais?
Mon as de pique.
Comment l'as de pique? Comment
l'as de pique?
C'est fou, je ne puis pas admettre qu'on me coupe quand je suis maître.
Et c'est dans la porte du mort qu'on joue.
Pour ne rien compromettre.
Et puis il existe une raide. Dans sa longueur, on joue sa faible.
Allons, mademoiselle, mais à quoi pensiez-vous?
Quand on n'a qu'un tout petit jeu de rien du tout,
on ne demande pas 3 sans atout.
Messieurs, vous n'êtes pas aimable. J'étais venu à votre table. Le bridge est un jeu qui me fait horreur. Le bridge est détestable. Et puis d'abord, permettez que je vous explique que pourquoi j'ai joué mon as de pique. C'est que j'ai cru couper la dame de cœur. Et vous n'allez tout de même pas m'avaler. Pour 2 rois et pour un petit valet.
Oh, alors, je vous en prie.
Consolez-vous, mademoiselle. Nous avions perdu la cervelle. Vous n'aviez pas besoin de faire grand chelem. Allez pour qu'on vous aime. Laissons ces cartes imbéciles.
Laissons ces cartes imbéciles.
Séchez vos cils et vos pupilles.
Je sèche mes cils et mes pupilles.
Quand on a des yeux aussi doux que vous.
Même avec un tout petit jeu de rien du tout,
on peut demander 4 sans atout. Venez, 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 venez.
Venez, venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux. Le bridge est adorable.
En moins d'un an, les œuvres de Mireille et Jean Nohain connaissent une diffusion remarquable qui secoue le petit monde de la chanson française. Raoul Breton les édite et le peintre André Girard les illustre, tant pour les recueils de partitions que pour les pochettes de disques, ce qui est une véritable innovation du plus bel effet. Et il faut surtout rendre hommage à Jean Nohain, le parolier de Mireille, dont le style a pour principale caractéristique la fraîcheur. Pas de grands drames, ni de promesses éternelles, juste de petits faits de la vie quotidienne mis en musique avec un charme indescriptible. Dans les discothèques de la plupart des familles possédant un phonographe avant la guerre, et c'était le cas de la mienne, on trouvait des disques de Mireille et ses amis.
On s'était assis sur l'herbe tendre, je t'ai regardé, tu n'as rien dit.
Pourtant tu as bien dû me comprendre, je n'ai pas bougé, mais j'ai rougi.
Presque oui, presque tout, nos yeux fous l'ont promis, quelle douceur infinie.
C'est exquis, merveilleux, nos deux yeux éblouis.
Battait, battait, palpitait.
Je voulais résister et j'hésitais.
regard a tout dit.
Presque oui.
Ce duo de Mireille et Jean Sablon, exceptionnellement accompagné par le génial pianiste Clément Doucet, clôture l'opérette disquée Un mois de vacances. Nous retrouverons Mireille la semaine prochaine pour évoquer la suite de sa carrière. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Jean-Michel Bernot à la technique, Éric Lancien à la réalisation, Aude Vassan et Marie Chauveau pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.